On est de retour, mon cher FX, avec ce célèbre raccord que nous aimons tant.
4 secondes.
4 secondes, on niaise pas avec le POC, on est là. Et tout là par ça. Il est présent grâce à la magie zoomesque. L'ami Éric Auziel. Bonjour Éric.
Ben FX, les gars, pour la game aujourd'hui, je me suis rasé.
Ben oui, t'es beau comme un cœur.
Ben beau comme un cœur. Je me suis rasé. On peut-tu garder ça comme ça, là? Beau comme un cœur, c'est. Ça s'applique à d'autres.
Ah, c'est vrai qu'il est beau comme un cœur.
Non, mais non, pas du tout. C'est pas vrai que ça s'applique à d'autres personnes. Ça s'applique à toi.
Ben, t'es gentil, moi, je vais te prendre. Merci
moi,
beaucoup.
Moi, je te trouve beau. Hey, ça, là, on peut-tu, là, le tabou, là, de dire qu'un homme pense qu'un autre homme est beau, là, sans se faire dire ah, c'est bien, toi, t'as des tendances. Tu sais, je veux dire, tu peux-tu dire, hey, ça, c'est un bel homme.
Oui, tu peux, Ben.
On peut-tu dire ça? Bon, oui, tu peux. Ça va faire le maudit niaisage. Il y a toujours un malaise, tu sais, quand un homme dit à un autre homme, hey, t'es un bel homme, toi.
Ouais.
Ah, ouais.
Ben, écoute, ben ouais, mais c'est parce que si t'es bien dans ta peau, tu peux dire ce que tu veux du moment que tu sois respectueux des autres. Tu peux dire ce que tu veux. Je veux dire, on a passé une époque où on se censurait, on s'auto-censurait, mon cher Ben.
Eh oui.
On s'éloigne de cette époque-là maintenant où on peut quand même s'exprimer du moment qu'on soit respectueux et qu'on soit nuancé.
Moi, ça fait au-dessus de 30 ans que je suis dans les médias, là. Mm-hmm. Et ici, là, BPM Sport, c'est mort l'alpha. Là. C'est, en principe, c'est mort l'alpha. J'ai jamais vu une station de radio où il y a autant d'étreintes, de câlins
c'est vrai.
Et de « je t'aime ». J'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, on est à BPM Sport, une station mort l'alpha. Et là, j'en profite pour te dire « tu es un bel homme, Éric ».
C'est gentil, merci. Puis je vais prendre la balle au rebond pour te dire que oui, c'est un milieu de mâle alpha parce qu'on est dans le sport, mais on a beaucoup d'auditrices. Mais les athlètes, en général, sont des guerriers, mais entre eux, ils se reconnaissent comme des guerriers, puis ils vont se le dire « je t'aime » et « j'ai besoin de toi ». Puis, tu sais, ils vont là où on a encore un défi, c'est quand ça va pas bien, d'exprimer ses émotions. Puis de dire « écoute, ça va pas bien ».
T'as vraiment raison. Ça, c'est encore le défi.
C'est quand tu viens de gagner un championnat, I love you, man. You're my brother, man. I love you, man. C'est facile. Quand ça va pas bien, t'as des défis personnels, puis que t'as des angoisses, puis des idées noires, puis d'aller chercher de l'aide, c'est plus. T'as encore un défi parce que tu vas être perçu dans un milieu de mâle alpha comme étant on va te sortir du clan.
Oui.
Si t'es sorti du clan, tu vas pas survivre. Tu comprends? Puis ça, c'est dans notre ADN de cueilleur-chasseur, là.
Tout à fait. Belle réflexion en ouverture de chronique. Mon cher Éric, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, on doit revenir sur cette finale hier dans la NBA.
Ouais, on a regardé ça. Plusieurs, on était au rendez-vous.
Ouais.
Ben FX, j'y ai cru. J'y ai cru à un scénario hollywoodien.
Ah, moi aussi.
J'y ai cru quand, pour les gens qui n'ont pas vu le match, Tyrese Haliburton, qui est le meneur de jeu des Pacers, qui soignait une blessure au mollet depuis le début de la série. Ou presque, a subi une blessure importante, probablement la déchirure du tendon d'Achille, ce qui me semble qu'il y en a beaucoup ces temps-ci. Il y en a beaucoup, mais en tout cas, ça c'est un autre sujet. Et puis là, ben, on s'est dit, c'est terminé. Et non, c'est arrivé à peu près au milieu du premier quart, mais jusqu'à la fin du deuxième quart, j'y ai cru. J'y ai cru, mais après ça, le troisième quart est arrivé. OKC a été dominant. Mais il y a quand même des belles histoires qui sont sorties de cette partie-là. Puis,
chapeau,
Mathurin.
Exact, chapeau à Mathurin parce que, écoute, c'était le prochain joueur à rentrer sur le terrain, prendre la place d'Haliburton. Il a très, très bien fait quand même pour les Pacers, Eric.
C'est excellent. C'est le deuxième plus haut total de points derrière chez Gilgeous Alexander.
Ouais.
Il a eu 24 points. C'est lui qui a le plus de points. Puis tu vois qu'il n'a pas peur. Tu vois qu'il n'est pas encore raffiné offensivement. Mais c'est normal pour un joueur offensif. Ça prend un petit peu plus de temps de raffiner ton jeu. Contrairement à Lou Dort, qui lui, il est vraiment là, c'est presque un produit terminé. Défensivement, il est complet. Et ce qui m'a impressionné, Dort FX, c'est qu'il n'a pas peur. Il a pris 9 tentatives de tir de 3 points. Il en a réussi seulement 2. Mais 9 dans un match comme celui d'hier, un match 7, où tu vas être prudent, il n'a pas peur de rien, là. Tu vois, puis même pendant la description du match, je pense que c'est Richard Jefferson, qui était l'analyste sur ABC ESPN, a dit « C'est peut-être le joueur le plus fort de la NBA, physiquement. » Et c'est pas un gars de 7 pieds, là. C'est un gars de 6 pieds 3 à peu près, mais physiquement, tu le vois, là, Les gars essayent de faire des pics contre lui, ça fonctionne pas. Il y a eu un moment où ils ont appelé une punition sur Mathurin parce que il y a eu un contact entre Mathurin et Dort. Mais je pense que Dort a simulé ce jeu-là. Fait que, tu sais, il y a eu plein de belles histoires. Ces deux jeunes-là ont vraiment brillé hier, chacun à leur façon, dans un match numéro 7 où il y a énormément de pression. Mais c'était trop peu, trop tard. Sans Haliburton, c'était presque impossible.
Ouais, puis Haliburton avait un bon début de match en plus, Eric. Là, on sentait vraiment que les Pacers pouvaient gagner ce match ultime-là, numéro 7. Fait que c'est extrêmement décevant. Et dans le cas de Lugansdor, je te pose la question, là, mais pour moi, là, cette conquête-là concrétise le fait que c'est vraiment un des top joueurs défensifs dans la NBA. Et je pense que ça va mettre un peu plus de lumière sur l'importance de ce qu'est ce joueur-là pour l'organisation du Thunder. Sérieusement, là, quelle performance dans cette série finale-là de ces matchs?
D'accord avec toi. C'est un top 5. C'est un top 5 dans la Ligue. D'ailleurs, ses coéquipiers militent beaucoup pour lui, pour qu'il soit sur l'équipe défensive de l'équipe d'étoiles de fin de saison quand on fait les nominations et les trophées et les couronnements. Et il le mérite, il est extraordinaire. D'ailleurs, au KC, au troisième et quatrième quart, ont vraiment resserré leur défensive. On s'attendait à Siakam un petit peu plus, mais c'est pas là que ça s'est venu. On pensait qu'il allait prendre le match en main. Mais tu sais, ils ont montré beaucoup de résilience, les Pacers. Auraient-ils gagné le septième match à OKC avec Haliburton? Peut-être, on le saura jamais. Mais... je veux dire, quand je l'ai vu tomber, tout de suite, quand on l'a vu tomber, on l'a vu pleurer, puis on l'a vu frapper le sol.
Je le sais. On a vu son père également dans les gradins être estomaqué là, par ce qu'il venait de voir. Non, c'était pas une belle scène à vivre, ça.
Mais c'est la dernière chose que tu veux. Dans un match 7, tu veux voir les meilleurs contre les meilleurs, puis tu veux vraiment voir la meilleure équipe l'emporter. Tu veux pas que ça soit une décision d'un arbitre. Tu veux pas qu'il y ait aucune controverse. Là, il n'y avait pas de controverse. C'est le hasard, c'est la malchance, et c'est la beauté du sport, les imprévus. Ça s'invente pas. Un scénariste de film aurait essayé d'écrire une histoire comme celle-là. La seule chose qu'il aurait fait, probablement, c'est qu'il aurait fait que les Pacers l'auraient emporté. Là, ça aurait été vraiment la discussion des prochaines semaines, puis on aurait dit, voyez-vous, c'est possible. Mais ça enlève rien aux Pacers, qui ont été très résilients. Mais OKC, les gars, ont été la meilleure équipe toute l'année, puis ça fait une quarantaine d'années qu'il n'y a pas une équipe aussi jeune qui a remporté la championnat d'année.
Oui, c'est vrai.
Et c'est rafraîchissant de voir d'autres athlètes que des Curry, des LeBron, tu comprends?
Absolument.
C'est rafraîchissant, puis là, ben, SGA, il est arrivé, il fait partie de ce type d'athlètes qui vont briller partout, puis ma question que je vous pose, qui a une meilleure chance de podium? L'équipe canadienne de hockey l'année prochaine ou l'équipe canadienne de basket en 2028 à Los Angeles?
Je dirais avec l'équipe de hockey quand même, mais je dirais que l'équipe de la NBA canadienne, là, elle va être assez solide,
ouais.
Eric. Là.
Ben oui.
Avec Lugansdor, Bénédicte Mathurin, SGA.
Oui, puis il faut pas oublier Andrew Nembhard, qui était sur l'équipe à Paris. Jamal Murray, est-ce que Wiggins, qui a pas voulu y aller, est-ce qu'il va être encore capable de jouer à ce niveau-là? RJ Barrett. Moi, je pense que ça s'annonce bien. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr que l'équipe canadienne au hockey, elle aspire une médaille d'or. Je pense que l'équipe canadienne au basket, un podium, ça serait extraordinaire. Ça serait normal dans le développement du basket canadien. Mais, tu sais, parce que le basket, c'est mondial. Là. C'est partout. Là. Il y a des pays là, qui ont des joueurs qui sont dominants un peu partout. Mais ça augure bien pour Los Angeles, ça va être une belle vitrine. Puis ce qu'on a vécu depuis quelques jours, c'est une belle vitrine pour le basket canadien et québécois. Fait que ces deux kids-là de Montréal-Nord ont peur de rien. Ça, c'est impressionnant.
Ouais.
Ils n'ont pas été étouffés par la pression.
D'ailleurs, au Parc Pilon à Montréal-Nord, on avait encore une fois, là, évidemment, pour le septième match, présentation sur écran géant de cette rencontre. Alors, pour Montréal-Nord, c'est tout un exploit
tout
et c'est très, très inspirant pour les jeunes hommes qui aiment le basketball.
Mais
une belle histoire.
Et là, ben, ça met la table là, déjà l'année prochaine. On a vu Kevin Durant qui va bouger,
exact.
Qui va être, ça va être officialisé que ça va à Houston. Houston qui a une jeune équipe aussi. Mais tu vois, on s'éloigne beaucoup du modèle de 2-3 méga stars qu'on réunit pour gagner le championnat de la NBA. Ça, je trouve ça rafraîchissant.
Oui.
C'est intéressant pendant quelques années. Plusieurs équipes l'ont fait, ce modèle-là. Maintenant, on va vers des joueurs efficaces. On va vers des jeunes athlètes.
Tant mieux.
T'sais, Mathurin est tout jeune, là. Jusqu'où il va se rendre, ce gars-là? Je ne le sais pas.
Ouais.
Mais les Pacers vont être de retour. Mais pas l'année prochaine. Parce que selon ce que je comprends d'une blessure comme Haliburton, c'est un an.
Ah, aïe, aïe. C'est effrayant, ça.
Si c'est confirmé que c'est probablement ça,
ouais,
que c'est une rupture du tendon d'Achille, c'est 10 mois à un an. Ah. Il ne reviendra pas pour les séries à 100%. On va vouloir être prudent. Il est encore jeune, il n'a pas 30 ans. C'est un joueur important. Les Pacers sont bien dirigés, ont des bons jeunes joueurs. Fait que moi, je pense qu'on va être prudent de ce gars-là.
Ouais.
Fait que, tu sais, ça va être difficile. Mais les OKC pourraient répéter.
Mais ce que je suis content, Eric, c'est que on a le droit à 7 matchs dans cette finale-là. Ça a été serré jusqu'à la toute fin. On a eu un premier match complètement fou. Puis ça, dans les 7 dernières années, ce sont 7 équipes différentes qui ont remporté le titre de la NBA. Ça, avec ces...
Toi aussi, c'est intéressant.
Voir la parité dans la NBA,
ouais,
ça, j'aime ça. Ouais. Parce que on voyait souvent là, des années où Golden State dominait, là. Dans la NBA,
ouais,
c'était souvent les mêmes équipes qui revenaient tout le temps en finale ou qui l'emportaient. Alors là, de voir une parité s'installer dans la NBA comme ça, moi, je suis content. De voir différents marchés là, atteindre la finale.
Ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien.
Ça fait vraiment du bien.
Ça fait du bien. Tu sais, l'année passée, quand Boston venait de l'emporter, on s'est dit la fenêtre vient d'ouvrir pour 2-3 championnats sur 4-5 ans.
Ouais.
Là, ils ont eu des blessures. Ils ont pas réussi à passer. Fait que je te dis, OK, si... pourrait l'emporter l'année prochaine, et en même temps, je dis ça puis je dis n'importe quoi, parce qu'il y a tellement d'imprévus, c'est tellement long ces saisons-là. Tu sais, je veux dire, il y a tellement, puis je trouve qu'il y a de plus en plus de blessures à des joueurs importants, tout sport confondu. Tu sais, ces athlètes-là s'entraînent 12 mois par année. Ils sont impeccables au niveau de leur condition physique, mais c'est tellement rigoureux et exigeant pour le corps que si t'as pas la récupération... T'es plus vulnérable aux blessures, et peut-être que c'est tout simplement seulement la malchance. Je veux dire, la science n'est pas rendue là encore en train de faire l'équation. Tu t'entraînes 12 mois par année, t'es plus à risque de blessure. Moi, je pense que c'est tout simplement tellement de minutes, tellement d'intensité. Tu sais, les athlètes, Ben et FX, font tellement plus de choses maintenant qu'ils en faisaient il y a 30 ans,
exact,
que c'est sûr qu'il y a des risques. Tu fais tellement plus de choses,
tu la machine,
plus acrobatique, plus athlétique. Fait que tu t'exposes plus à des blessures.
OK, les 7 à 10 prochains jours seront d'une importance capitale pour le Canadien de Montréal, Eric.
Ça, c'est un cliché, comme le prochain match, c'est le match le plus important de l'année. The biggest game of the year.
Mais t'as raison, Eric. T'as raison.
Oui, parce que à cause de la saison qu'on vient de connaître, les attentes sont élevées. Hughes et Gorton pourrait être tenté de dire, écoute, on le sait ce qu'on a de besoin. Tout le monde, la planète hockey le savent. On a besoin d'un deuxième centre. On a besoin, à certaines positions, de se renforcer si on veut aller à la prochaine étape. Et le piège, c'est de vouloir sauter les étapes. Si l'opportunité se présente, tant mieux, mais on peut pas la forcer, je pense. Pour ça que je te dis, autant au repêchage, ils ont deux choix. Moi, je trouve pas que ces deux choix si stratégiquement bien positionnés, tu comprends, personnellement. Si on m'avait dit ils ont le 7e et le 8e, je te dirais OK. Mais tu sais, en mi-ronde, je vois pas des équipes aller mordre à l'hameçon, personnellement. Puis après ça, ben il y a le 1er juillet, là aussi, c'est un piège, parce qu'on peut payer trop cher ou on peut aller chercher un type de joueur qui va pas venir cadrer dans ta chimie d'équipe, dans la philosophie de Martin Saint-Louis. J'ose espérer que Hughes et Gorton vont être prudents. Mieux être prudent, parce que la fenêtre n'est pas l'année prochaine. En tout cas, elle ne devrait pas l'être.
Non.
Mais, tu sais, je voyais que peut-être qu'on veut allonger le contrat de Patrick Laine. Voilà un piège. Je n'ai pas la réponse. Je ne te dis pas que Laine ne devrait pas rester avec le Canadien à moyen terme. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, il faut que le prix soit bon, puis il faut qu'on sache avec qui il va jouer, qu'il soit bien entouré. On l'a connu pendant un an. Nous, on a vu sur la glace des moments où il est absent. Mais eux autres, dans le vestiaire, ils ont peut-être vu un autre type de personnalité. Donc, c'est à eux autres à prendre ces décisions-là. Ce que j'ai vu, par contre, je sais pas, je pense que vous allez être d'accord avec moi, tu peux pas gagner si t'as pas la majorité de tes joueurs, que ce soit au basket ou au hockey, qui ont de la ténacité.
Ah, je suis d'accord. Mais dans le cas de Patrick Laine, là, on peut-tu attendre?
On va attendre. C'est comme le dit Eric, c'est un piège. C'est de la boucane, je pense. Oui, le Canadien, ben, là, quand... c'est loin d'être prioritaire, ce dossier-là.
Ben oui, quand je dis que c'est un piège, ça veut pas dire que il est toxique. C'est pas ce que je dis.
Non, 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 mais dans ce sens que la nouvelle est un piège.
Oui, oui.
C'est ça. La rumeur, là, la nouvelle qu'on travaille prioritairement en ce moment sur le dossier Lainé, je n'y crois pas
non,
du tout.
Non, mais c'est parce que t'as d'autres priorités, là. T'as le deuxième joueur de centre, tu savoir ce que tu vas faire cette semaine, mais de toute façon, dans le cas de Lainé, c'est pas avant le 1er juillet, là, que tu peux dire.
Comme dirait Georges.
Arrête de nier ça.
Et voilà. Puis en plus, t'as les notes aussi, là.
Oui,
mettons que l'année vient très loin dans ma priorité.
Mais c'est la responsabilité de ces dirigeants de voir l'ensemble de l'œuvre.
Bon.
Ça fait partie aussi de leur responsabilité de dire, OK, on a ça en priorité, mais on a trouvé tous les petits dossiers. Fait que, tu sais, Jonathan Toews à Winnipeg, ils l'ont eu pour moi. Ils ont eu un contrat gagnant-gagnant.
Oui, je suis d'accord.
C'est pas un très grand risque et c'est un risque calculé. Et si Toews et bon, à 80% à 70%, ben ça peut être un beau pari. Maintenant, dans le cas de Lainé, mais Toews, tu le sais que lui, la seule chose qui pourrait être un échec, c'est que son corps ne suit pas. Mais au niveau de sa ténacité, de son éthique de travail et sa façon de jouer, tu le sais que tu n'as pas de doute là-dessus. Dans le cas de Lainé, ce que j'ai compris, ce que j'ai observé, c'est que des fois, son état d'esprit affecte la façon dont il joue.
Ben, je suis d'accord. Hey, Eric, veux-tu une... Une rumeur?
Encore?
Oui.
Ah oui, j'ai une rumeur pour vous.
Attention, attends un petit peu.
Alerte. Rumeur.
Écoutez bien ça. Les Ducks d'Anaheim auraient des discussions significatives avec d'autres formations pour échanger Trevor Zegras, selon Elliott Friedman. Et selon Friedman, Zegras pourrait être échangé dès cette semaine. Ça, c'est un nom qui circule depuis des années, Trevor Zegras.
Oui.
Il y avait une transaction avec le Canadien qui a été avortée finalement. Mais Trevor Zegras, on est dans des discussions sérieuses et ne devrait pas terminer sa semaine comme un membre des Ducks d'Anaheim. Alors, c'est à surveiller. Est-ce que c'est le Canadien qui est dans le mix pour Trevor Zegras? Allez savoir, mais selon Elliott Friedman,
quand je vous disais tout à l'heure que Hughes et Gorton travaillaient fort en ce moment, il y a des choses qui bougent.
Des choses qui bougent.
C'est le type de joueur de Martin Saint-Louis.
Non, mais...
Moi, je crois pas là, à Zegras. Mais bon, on y reviendra.
Mais sa valeur est très, très basse en ce moment, par contre.
Sa valeur est basse.
Ça va pas coûter cher.
Ben ça, tu sais, c'est... Ouais, ben en tout cas, on verra. Moi, je pense pas que ça va être une destination à Montréal pour Zegras.
Non.
Mais ceci étant dit, tu sais, il y a ces types d'athlètes qui sont extraordinaires, qui ont des habiletés fantastiques. Tu sais, je pense à Elias Pettersson, je pense à des Zegras. Tu fais comme, wow, des Jack Hughes. Mais est-ce que ça s'articule dans les moments importants par de l'efficacité, ben, ce sont encore des jeunes joueurs. OK? C'est encore des jeunes joueurs. Il y a de la maturité qui est encore acquise. C'est possible qu'éventuellement, ces joueurs-là se développent pour des grands joueurs, mais je me questionne. Mais, tu sais, c'est ça. Donc, nous autres, à distance, je te dirais, Zegras, ça dépend toujours. C'est quoi le prix?
Exact. Il reste une année de contrat pour Trevor Zegras à 5,75 millions de dollars. À surveiller. À suivre.
À suivre. Ce qui est à suivre également, c'est de connaître le rapport entre Éric Auziel et Joe Dassin. De quoi je parle, vous le saurez après ceci. Les gens se questionnent sérieusement. Est-ce qu'il était en compagnie de Joe Dassin lorsqu'il a commis le larcin des cercles d'attente au stade olympique, mon cher Éric?
Tu sais que j'ai déjà fait un tour de limousine avec Rod Stewart.
Es-tu sérieux, toi, Tab?
Écoute.
Oui, on avait dit.
Ça, personne ne m'a cru parce que c'est arrivé le 1er avril.
OK.
Mais c'est vrai.
C'est ça.
Ma jeune blonde de l'époque, j'avais à peine 20 ans, je travaillais dans un magasin de sport, me dit « Hey, je vais aller voir Rod Stewart. » Puis moi, j'avais un événement avec mes amis le soir du show de Rod Stewart au Forum. Et puis, je travaillais dans un magasin de sport. Et là, il se présente par hasard, Rod Stewart, avec des pantalons jaunes fluo, un chandail rouge, ses souliers verts. Tu sais, Rod Stewart, là, dans les années 90, ben, là,
oui.
C'était quelque chose.
Absolument.
Et là, je le vois, et lui, il voulait avoir des souliers de soccer parce qu'il kickait des ballons son soir. Puis j'ai dit, écoute, on n'a pas la succursale ici, mais on a à 4-5 rues plus loin. Il dit, embarque avec moi, on va aller chercher ça. J'ai fait un tour de limousine avec lui dans le centre-ville de Montréal. C'était jamais partout. Et là, j'avais juste une dentelle. Ma blonde, elle veut des billets. J'en demande-tu? Je dis non, j'en demande pas. Moi, j'ai une activité avec mes chums. Si elle me donne des billets, je vais être obligé d'y aller avec ma...
Mais voyons donc!
Aïe,
ça n'a pas de bon sens.
Et j'ai fait un tour de limousine avec lui. Il a été super charmant. Quand c'est arrivé le temps de payer, il dit, j'ai pas d'argent. Tu sais, c'est son agent qui a payé avec une carte de crédit. Puis lui, j'y avais amené des souliers Adidas. Puis il m'avait dit, non, Adidas, je les ai gratuits. Donne-moi une autre marque, parce qu'il était commandité. Il voulait des Pumas. Alors, quand j'ai compté ça à tout le monde, c'était le 1er avril, j'ai quand même demandé un autographe. Il m'a donné un autographe que j'ai encore. Fait que là, j'ai appelé ma blonde en fin de journée. J'ai dit, hey, j'ai fait un tour de limousine avec Rod Stewart. Elle dit, as-tu demandé des billets? Je dis, oui, mais il n'y en avait pas disponible.
Maudit menteur. Bon,
mon activité avec Mitch.
L'enfer. On lance-tu l'extrait?
Oui.
C'est parti.
L'Amérique. Mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les
siffles de l'Amérique, Joe Dassin, pourquoi donc, Éric Auziel?
Pour Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA, qui, lui, a déclaré il y a quelques jours que, tenez-vous bien, le soccer, dans 3-4 ans, va être le sport numéro 1 aux États-Unis. Je fais le lien avec la Coupe du monde des clubs qui a lieu présentement aux États-Unis dans 11 villes différentes, dont pas beaucoup de monde parle. Pourquoi, envers et contre tous, ils ont tenu ce tournoi cet été aux États-Unis? C'est parce que, justement, Infantino et la FIFA est à l'assaut du marché le plus lucratif dans le monde. Ils veulent conquérir l'Amérique, comme Christophe Colomb. C'est le marché américain qui est à peine touché dans les revenus. Ils le veulent. C'est pour ça qu'ils sont là. Et Infantino dit, on va être le numéro un dans 3-4 ans. C'est une grosse, grosse affirmation, les gars. Moi, j'ai des doutes. Et puis, c'est ça. C'est tout cet argent-là disponible pour toute la FIFA. Et quand on lui a demandé quels sont les freins au fait que le soccer se développe pas plus vite en Amérique du Nord, vous n'aimerez pas la réponse. Il a dit, il va falloir que la MLS et les clubs installe le système de promotion-relégation.
Aïe,
ça,
aïe, aïe.
C'est une bonne
aïe.
Nouvelle pour le
CF Montréal.
Non. Ça veut dire pour les gens qui ne savent pas, qui connaissent moins la culture soccer.
En Europe, quand tu termines dans les trois derniers, à moins que je me trompe, Eric,
ça dépend des ligues.
Mais actuellement, quand tu finis les trois derniers d'une ligue, tu es relégué à la ligue suivante. Exemple, en Angleterre, tu as la Premier League, qui est la première ligue anglaise. Mais quand tu termines dans les trois dernières durant la saison régulière, tu es cédé dans la deuxième division.
La Championship League, exactement. Voilà. C'est ça. Alors, et ça se fait au soccer, ça se fait dans plusieurs sports, c'est-à-dire des relégations. Alors, lui, il dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Puis quand on parle à Dan Garber, il dit, ben, on n'est pas fermé à ça, pas tout de suite, il va falloir que les propriétaires décident. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui va revenir de temps en temps. Lui a donné des statistiques. Il dit, dans les sports, tous sports confondus, 90 % du temps, les équipes les plus talentueuses, les plus riches gagnent. Au soccer, à cause de promotion-relégation, c'est 70 %, il y a des surprises. Alors, lui, il dit, il faut qu'on aille là. Il a donné l'exemple de Wrexham, ce club qui est parti de la 4e division, qui est rendu en 2e division. C'est connu. Donc, il a donné cet exemple-là. Il y en a d'autres. Fait que c'est très ambitieux de sa part, mais je vois pas comment ça va arriver à moyen terme.
Non,
je
pense
que t'en penses, c'est fixe.
Je
vois pas ça.
Je le vois pas non plus.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite. C'est sûr que la Coupe du Monde va beaucoup aider. Ouais. La prochaine Coupe du Monde qui s'en vient, je pense, ça va faire un gros boom. Mais encore une fois, on est loin de ça là, pour les États-Unis, à mon avis.
Mais tu parles de fiasco là, rapidement parce que le temps nous bouscule. Mais je veux que tu nous expliques un peu de quoi il en retourne. Là.
C'est présentement, jusqu'à présent, là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont voir les parties. Le jeu n'est pas égal. Tu as 32 équipes.
Exact. Ben,
tu as des Chelsea, tu as des Real Madrid, tu as des Manchester City, tu as des PSG. Mais tu as aussi des clubs qui sont beaucoup moins prestigieux, qui ont beaucoup moins de talent. Alors, tu sais, je veux dire, la planète soccer, là, tout ce qui est du côté sportif, n'en voulait pas de ce tournoi-là. Tous les athlètes et les entraîneurs. Bon. Ceux qui le voulaient, c'était les propriétaires, la FIFA, tout ce qui est l'aspect marketing, parce qu'ils se sont dit, on a besoin de visibilité, on a besoin d'aller chercher. Tu sais, le partisan qui regarde le soccer de loin, qui n'est pas identifié à une équipe, veut peut-être s'identifier à Real Madrid, Manchester City, ou peut-être au PSG, mais quand ils viennent aux États-Unis, c'est ce marché-là qu'ils veulent. Sauf que la qualité du jeu n'est pas au rendez-vous pour l'instant. On est au début du tournoi. Et puis, l'intérêt des amateurs n'est pas au rendez-vous. Il y a quand même des belles bourses, mais il n'y a pas de réseaux nationaux qui vont diffuser les parties. Fait que c'est un pari d'Infantino qui, maintenant, vit à Miami. C'est une autre des raisons pourquoi il veut s'attaquer au marché américain. Il vit aux États-Unis. Okay. Mais pour l'instant, c'est un fiasco. Maintenant, si les deux dernières semaines, les clubs les plus importants se retrouvent encore en jeu, puis qu'il y a une finale à New Jersey le 13 juillet entre, je dis n'importe quoi, PSG et Chelsea, ou entre Manchester City et Chelsea ou Real Madrid, ça se peut que là, on revise l'évaluation. Mais pour l'instant, c'est un fiasco au niveau du rendez-vous dans les estrades.
Oui, ou l'Inter Miami aussi de Lionel Messi, qui ont quand même battu Porto un peu plus tôt là, la semaine dernière.
Exactement. Okay. Exactement. Mais tu sais, t'as des clubs beaucoup moins prestigieux un peu partout de la planète, puis tu fais comme, OK, mais écoute, il y a eu des surprises, là. PSG a perdu, Chelsea a perdu, Real Madrid a fait match nul. Fait que rien n'est impossible.
On va se garder l'intriguant dossier Robertson pour mercredi, si c'est encore à la mode.
Ben oui. Ça va être encore d'actualité, bon, mais c'est un dossier très intriguant.
OK, ça, on garde ça, l'intriguant dossier Robertson. Un petit 30 secondes pour compléter, parce qu'évidemment, mercredi, là, l'histoire aura de la barbe un peu. Mais grosse fin de semaine de triathlon à Tremblant.
Oui.
Ouais, grosse fin de semaine de triathlon, de demi-Ironman qui était dimanche. Il y a eu d'autres disciplines samedi. Puis moi, je voulais juste, j'ai été faire un tour. Je voulais saluer, naturellement, tous les participants, ceux qui sont essayés à compléter, parce que dimanche faisait très chaud. Mais je voulais saluer tous les bénévoles. Bon, bénévoles, c'est un grand mot, parce que maintenant, l'organisation est obligée de payer indirectement pour avoir des gens, parce que ça prend énormément de bénévoles. Le parcours est très long, ça dure entre 4h et 6h, 6h30. Cette région-là est une petite région à Tremblant, fait qu'il y a beaucoup de gens de clubs. Tu sais, j'ai rencontré dans la navette en revenant les Chickens, c'est un club de triathlon de Montréal, des passionnés qui disent, nous autres, là, ils nous donnent 1000$ au club, là, on est au moins 10 bénévoles, on se déplace, puis on vient, puis on encadre pendant la fin de semaine tous les athlètes. Fait que, tu sais, pour des événements comme ça, ça prend du monde qui se donne. Et il y en a de moins en moins de gens qui veulent faire du pur bénévolat. Ouais. De moins en moins. Fait que c'était un très bel événement. Il a fait chaud hier, mais il y a plein de gens qui veulent bouger, qui veulent avoir des défis. Puis ça en fait partie. Il y en a d'autres, mais il y a une tendance présentement des gens de l'âge des fixes, là, 25-35, qui se lancent dans des défis pour le plaisir, pour l'aspect social, de dire, je vais te faire un marathon, un demi-marathon, un triathlon. Fait que je veux juste saluer tous ces gens-là, ouais, parce que, tu sais, l'important, peu importe ce qu'on fait, c'est de bouger.
Exact. J'ai trois amis qui étaient hier, qui l'ont couru, le triathlon.
Je pense que la fille... ceux qui sont arrivés un peu plus tard, là, à partir de 2h l'après-midi, 1h, là,
exact,
il a commencé à faire chaud, là. Ça faisait chaud, puis je voyais, là, à la ligne d'arrivée, là, des gens là, qui souffraient, là, mais écoute, toute mon admiration, c'était pas facile. Puis au début de la journée, c'était encore soutenable, mais en fin de journée, c'était très chaud.
Merci, Eric.
Salut, Eric.
Merci à vous et bon 23 et 24 juin à tout le monde. Bonne fête de la Saint-Jean. On se voit mercredi en studio. Merci beaucoup, les gars.
Merci encore, mon cher.
Bonne Saint-Jean, mon cher.
Bye bye.
Bonne Saint-Jean.